l'heure du journal présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et une nouvelle polémique sur la gestion désastreuse de la crise sanitaire aux États-Unis, mise en cause pour avoir minimisé la menace du Covid-19 dont il était pleinement conscient. Le président américain Donald Trump a assuré ce matin avoir voulu, je cite, éviter toute panique.
Dans votre journal également, c'est un rapport qui, tous les deux ans, vient nous rappeler l'ampleur dramatique de la perte de biodiversité.
Oui, celui du Fonds mondial pour la nature, WWF. On y apprend notamment ce matin que les populations de vertébrés ont chuté de près de 70% en moins de 50 ans. Nous irons également en Grèce où l'aide tente tant bien que mal de s'organiser après les incendies du camp de réfugiés sur l'île de Lesbos.
Le président Emmanuel Macron est en Corse aujourd'hui pour un sommet des chefs d'État, de gouvernement des pays méditerranéens de l'Union Européenne.
Oui, l'occasion aussi pour lui de s'entretenir avec les élus de l'île de Beauté. Et puis quand une poignée d'entreprises mondiales et de riches actionnaires réalisent des bénéfices exceptionnels pendant la crise du Covid, c'est ce que dénonce aujourd'hui l'ONG Oxfam dans un rapport sur le partage des richesses au sein des grandes entreprises mondiales pendant la crise. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Quentin Parinello, porte-parole d'Oxfam France. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Depuis le début de la pandémie et en France notamment, on a beaucoup entendu ces appels à retrouver notre souveraineté, à la rebâtir, comme le dit le président Emmanuel Macron. Mais pourquoi, en fait, est-ce qu'on ne va pas accentuer à travers ça une certaine forme de domination? De qui? Sur qui? On en parle avec nos deux invités, le philosophe Pierre Dardot et le sociologue Christian Laval.
Écœurant, voilà comment le candidat démocrate à la présidentielle américaine, Joe Biden, a réagi aussitôt après la publication d'extraits du nouveau livre à paraître du journaliste Bob Woodward, extrait dans lesquels on apprend que Donald Trump a donc volontairement minimisé la menace représentée par le virus, sans rien ignorer de sa dangerosité, et ce pour éviter la panique et ne pas déstabiliser l'économie du pays. Dans cet ouvrage, lequel s'appuie sur une vingtaine d'interviews accordées entre décembre 2019 et juillet 2020, on peut notamment lire ceci. Le 7 février, le président américain expliquait aux journalistes combien le Covid était, je cite, un truc mortel. Et pourtant, c'est bien le même Donald Trump qui, pressé de relancer l'économie à quelques mois de l'élection présidentielle, n'aura de cesse par la suite non seulement de répéter que le virus n'est pas plus dangereux qu'une grippe saisonnière, mais aussi de nier publiquement les avertissements des scientifiques. Alors toute cette affaire pose plusieurs questions, et notamment celle de savoir pourquoi, dans une situation de vie et de mort, Bob Woodward a-t-il attendu le mois de septembre pour publier cet entretien réalisé 7 mois plus tôt. Et puis bien sûr, Valérie Cantier, elle éclaire sous un nouveau jour la gestion calamiteuse de l'épidémie qui a fait, rappelons-le, plus de 190 000 morts aux États-Unis.
Oui, tout le monde se souvient des déclarations de Donald Trump pendant des mois. Oui, les États-Unis gèrent bien la crise, nous sommes les meilleurs, le virus disparaîtra très vite et tout d'un coup, et puis nous perdons des milliers d'Américains chaque année de la grippe. Eh bien, écoutez ce que Donald Trump disait en même temps, en réalité, le 7 février dernier, au journaliste Bob Woodward. Les conversations téléphoniques ont été enregistrées et diffusées hier sur CNN.
Il suffit de respirer et c'est comme ça qu'il se transmet. C'est un truc très épineux, très délicat. Et il est bien plus mortel que les grippes les plus graves.
Oui, il savait également qu'il se transmettait dans l'air et que des jeunes pouvaient être gravement touchés. Dès hier soir, après la publication de ses propos en conférence de presse, le président américain a bien sûr été bombardé de questions sur le sujet et étonnamment, il a tout assumé.
Je suis le meneur de ce pays, j'adore notre pays et je ne veux certainement pas que les gens aient peur et je ne veux pas créer la panique, entraîner ce pays et le monde entier dans l'hystérie collective. Nous voulons nous montrer confiants et forts en tant que pays. C'est ce que j'ai fait et nous nous sommes très bien débrouillés, que ce soit pour les respirateurs, les masques et bientôt les vaccins. On a fait un travail incroyable.
Depuis, les réseaux sociaux se déchaînent et deux hashtags sont devenus tendance sur Twitter. Trump knew, traduisez Trump savait, et Trump lied, people died. Trump a menti et des gens sont morts. À ce jour, plus de 190 000 Américains ont succombé après avoir contracté le virus. De son côté, le candidat démocrate Joe Biden a réagi et a qualifié les propos de Donald Trump d'écœurants.
On reste aux États-Unis avec au mieux un paysage de désolation à peine reconnaissable parmi les arbres calcinés et au pire un ciel d'apocalypse lorsque les soldats du feu sont contraints de battre en retraite devant des incendies incontrôlables. Ce matin encore, de gigantesques feux de forêt embrasent toute la côte ouest américaine de l'État de Washington, frontalier du Canada, jusqu'au sud de la Californie, des flammes meurtrières qui ont déjà tué au moins 6 personnes. À en croire les témoins sur place, il n'y a plus de mots pour décrire l'étendue des dégâts, reste toutefois la réalité des chiffres. L'Oregon, l'état le plus touché actuellement, a vu partir en fumée 120 000 hectares et au moins 5 localités ont été en grande partie détruites. Et puis dans l'état de Washington, là-bas, ce sont plus de 130 000 hectares qui ont brûlé en seulement 24 heures, soit plus du double de la superficie brûlée pour toute l'année 2019. Nous vivons dans un nouveau monde, ce n'est plus le Washington d'avant, c'est notamment alarmé le gouverneur dénonçant le changement climatique à l'origine selon lui de ces incendies, idem pour son homologue de Californie. Je perds littéralement patience face aux climato-sceptiques, a-t-il lancé. Et de fait, en Californie, là-bas, la saison des incendies bat déjà tous les records annuels enregistrés depuis 1932, année où les premières statistiques ont été réalisées. Au total, ce sont plus de 930 000 hectares qui sont pour le moment partis en fumée cette année contre 48 000 à la même époque l'an passé. Alors toutes ces images ne sont pas sans rappeler bien sûr celles de ces flammes qui depuis des mois dévorent également l'Amazonie à perte de vue, en proie à une catastrophe écologique sans précédent avec des dégâts irréparables pour ce sanctuaire de la biodiversité. Et justement, la perte de la biodiversité à l'échelle planétaire cette fois-ci, c'est l'objet de ce rapport publié tous les deux ans par l'organisation WWF. Et à le lire ce matin, qu'apprend-on ? Que le monde a perdu plus des deux tiers de sa faune sauvage en moins de 50 ans. Entre 1970 et 2016, 68% de la population d'animaux sauvages a disparu de la surface du globe. Principal responsable de cette hécatombe, l'activité humaine et notamment l'agriculture. D'où cette question, est-il encore possible d'arrêter la catastrophe ? Quels seraient en somme les leviers disponibles à actionner ? Laura Dulieu a posé la question à Arnaud Goffier de WWF France.
Cette année 2020, c'était la première fois où le Forum économique mondial de Davos mettait parmi les 5 risques majeurs pour l'économie mondiale, parmi ces 5 risques, tous étaient d'origine environnementale. Il y a quand même pas mal de moyens qu'on a entre les mains. Ça passe par l'extension du réseau d'air protégé. Ça veut dire derrière aussi changer les modes de production agricole, qui sont les principaux en cause, en fait, hein, dans la destruction des écosystèmes terrestres, notamment. On a une réglementation qui est en discussion au niveau européen pour interdire la déforestation importée. Le soja qui vient d'Amazonie, par exemple, ou l'huile de palme. Il y a les négociations sur la PAC, sur la politique agricole commune, où là, il s'agit d'aller vers plus d'agroécologie, plus d'agriculture bio, moins de pesticides, la lutte contre l'artificialisation des sols. Je rappelle qu'on continue à perdre l'équivalent d'un département français tous les 7 ans, qui est bétonné pour faire des centres commerciaux, des lotissements, des routes. Et enfin, tout un chacun, on peut aussi, à notre niveau, agir un petit peu pour, en faveur de la biodiversité, diminuer sa consommation de viande. Dans les pays développés, on estime qu'il faudrait 50% de moins de consommation de protéines animales. Et puis lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y a encore 30% de la production alimentaire mondiale qui part à la poubelle. Si on arrivait à diminuer ça de moitié, on pourrait avoir un impact vraiment positif sur les écosystèmes.
Voilà des mois que nombre d'organisations non gouvernementales dénonçaient la situation insalubre dans le camp surpeuplé de Moria sur l'île de Lesbos. Et ce sont les flammes qui auront finalement eu raison de la jungle, comme la surnommaient les migrants eux-mêmes, après que deux incendies ont littéralement fait sombrer le plus grand et surtout le plus sordide des camps de réfugiés de Grèce. Alors tout en saluant l'intervention rapide des pompiers, les autorités ont souligné qu'aucune victime, aucun blessé n'a été signalé. Reste que le centre rongé par le brasier est aujourd'hui totalement réduit à l'état de cendre. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes notre envoyé spécial sur place. Alors, on ne dira jamais assez combien ce camp et ses résidents laissés à l'abandon étaient le reflet de l'incapacité des autorités grecques et européennes à gérer les flux migratoires, mais aussi de l'antipathie croissante d'une grande partie en réalité des habitants de l'île envers les réfugiés. Quelle est aujourd'hui, Marie-Pierre, l'atmosphère sur l'île ?
Écoutez, effectivement, la situation se tend. Nous sommes actuellement à quelques kilomètres du camp de Moria et au barrage de la police qui empêche les migrants de descendre vers la ville et le port de Mytilène. S'ajoutent depuis ce matin des blocus improvisés par les habitants. Des villageois de Moria descendus pour couper les accès au camp avec camions et troncs d'arbres. Quelques dizaines de résidents en colère, visage fermé, parmi eux, sauf sans emploi.
We had enough from these people.
On en a marre de ces gens. Marre. Ils ont brûlé le camp, juste car ils ne voulaient pas y rester. Ils veulent partir et nous aussi, nous voulons qu'ils partent.
They want to live and we want them to live.
Et de dénoncer les destructions. Ils volent, ils brûlent nos oliviers centenaires. Notre patience est à bout, dit-il. Les flammes, Moria en a vu tellement, soupire Costas, un pêcheur à la retraite.
La situation à Moria, c'est ça. On brûle, on reconstruit. On brûle, on reconstruit. C'est un bon boulot. Il y a beaucoup d'argent pour ça, mais pour les locaux, on ne fait rien. La situation est très mauvaise.
Plus d'emplois, plus de touristes, une économie à genoux et une île à bout. Les habitants empêchent en fait les camions de l'armée grecque d'aller nettoyer les cendres pour installer de nouvelles tentes, de construire ce nouveau camp qu'Athènes promet, un camp prison fermé, mais pas question pour les habitants. Ils ne veulent plus de camp, de celui-ci ou de notre, qu'ils le construisent ailleurs, nous disent-ils, en Europe, où ils veulent, mais plus chez nous. Des milliers de réfugiés ont pourtant tout perdu jusqu'à leur abri précaire, un bout de tente ou de bâche plastique, des femmes, des enfants dorment dehors dans la rue, mais les résidents de Moria semblent eux avoir épuisé leur réserve de compassion.
Merci Marie-Pierre Véraud en direct de Lesbos, ainsi qu'à Laurent Macchietti pour les moyens techniques. Alors, quiconque a visité le camp de Moria ces dernières années savait que c'était une bombe à retardement sur le point d'exploser, en même temps que la triste illustration de cette incapacité donc des Européens à se mettre d'accord sur une politique migratoire commune. Et d'ailleurs, dès hier, la cacophonie européenne s'est de nouveau fait entendre. L'Autriche et les Pays-Bas en particulier ont d'ores et déjà opposé une fin de non-recevoir à l'Allemagne, qui réclamait une répartition des réfugiés au sein de l'UE pour répondre à la catastrophe humanitaire. L'Allemagne, où plusieurs milliers de personnes ont par ailleurs manifesté spontanément hier dans plusieurs villes du pays pour exiger des autorités de prendre en charge les migrants. C'est une correspondance signée David Philippot.
Cet incendie suscite beaucoup d'émotions ici. Cela fait la une des journaux. Des manifestations de soutien aux réfugiés ont effectivement eu lieu hier soir, spontanément, un peu partout dans le pays, dont 3000 personnes réunies hier à Berlin, 10 000 selon les organisateurs. Des manifestations de colère aussi pour exiger le rapatriement de ces gens à l'abandon qui ont passé la nuit dehors, comme le rappelle un article du Spiegel, car la polémique s'est propagée sur le terrain politique. Cette situation, et en particulier la peur farouche de l'extrême droite, place le gouvernement d'Angela Merkel dans l'embarras. Des centaines de villes allemandes se déclarent depuis des mois prêts à accueillir ces réfugiés. Les sociaux-démocrates, par la voix de leur chef, le réclament à nouveau. Un projet fermement bloqué par son partenaire de coalition au gouvernement, le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer de l'Union sociale et chrétienne de Bavière, en appelle au principe d'une répartition européenne des migrants, d'autant que l'Allemagne est l'un des seuls pays à avoir accueilli des jeunes enfants malades venus de Lesbos, 47 d'entre eux au mois de mai dernier. Le gouvernement allemand, donc, qui rejette indirectement la faute sur l'Europe, passive et incapable de répondre à l'enjeu migratoire à ses portes.
Les vives tensions en Méditerranée orientale devraient dominer les discussions au sommet des pays du sud de l'Union européenne qu'Emmanuel Macron préside aujourd'hui en Corse. Les dirigeants du MED7, comme on l'appelle, vont tenter d'accorder leur stratégie pour éviter une escalade de la crise opposant la Turquie et la Grèce qui ces dernières semaines ont montré leurs muscles à coups de déclarations martiales et autres manœuvres militaires. Mais avant cela, Emmanuel Macron a donc profité de sa visite, la troisième sur l'île de Beauté depuis le début de son quinquennat, pour participer dès hier soir à une cérémonie célébrant l'anniversaire de la libération d'Ajaccio, suivi d'un dîner républicain avec des élus. Et puis ce matin, le président avait choisi de faire le point donc sur l'avancée de divers projets pour la Corse. Simon le Baron, vous suivez pour nous cette visite. Le chef de l'État a bien sûr commencé, Simon, par le sujet de préoccupation majeur sur l'île, comme partout ailleurs d'ailleurs, la gestion de l'épidémie.
Le gouvernement va devoir prendre des décisions difficiles demain matin au Conseil de défense sanitaire. C'est ce que dit le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, qui n'exclut pas des reconfinements locaux. Emmanuel Macron est resté plus évasif ce midi.
Oui, nous aurons au Conseil de défense des décisions à prendre, comme à chaque fois. Ce que nous devons faire, c'est nous adapter à l'évolution du virus c'est essayer de ralentir au maximum et de stopper la circulation de celui-ci. Mais voilà, il faut, je pense, continuer à être exigeant, réaliste, sans céder à quelque panique que ce soit.
Mais le plus intéressant est sans doute ce qu'a dit le président après son point presse, en aparté aux journalistes. Il ne faut pas dramatiser les décisions qui seront prises demain, ce ne sera pas le grand soir.
Et parce qu'il a par ailleurs lui-même reconnu que la crise sanitaire avait frappé fortement deux secteurs clés de l'île, le tourisme et le BTP, eh bien, le président Simon a tenu à préciser que l'État avait consacré près d'1,5 milliard d'euros pour les mesures de soutien à la Corse depuis le début de la crise.
Oui, le président de la République est aussi venu montrer que l'État est au chevet de la Corse, très durement touchée, vous l'avez dit, par la crise.
L'État a été présent. 1,4 milliard d'euros ont été mobilisés. Je veux ici dire que nous serons aussi au rendez-vous des prochains mois. Nous mettrons en place des mécanismes spécifiques pour les prêts garantis de l'État, pour la poursuite du chômage partiel, pour les crédits d'impôt, pour accompagner les secteurs les plus touchés par la poursuite du virus.
Un message aussi politique à 6 mois des régionales. Certains élus nationalistes reprochent d'ailleurs à Emmanuel Macron de profiter de ce voyage pour lancer la campagne en rendant visite aux maires Macron compatibles d'Ajaccio et de Bonifacio.
Merci Simon Le Baron ainsi qu'à Eric Audra pour les moyens techniques. Christophe Castaner a été élu ce matin président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. L'ancien ministre de l'Intérieur a recueilli 55% des voix lors du second tour qu'il opposait à la députée des Yvelines Aurore Berger. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé ce matin que les négociations sur les taux de rémunération du dispositif d'activité partielle de longue durée à 84% du salaire net seraient prolongées jusqu'à l'été prochain. En clair, les entreprises vont donc continuer à avoir un reste à charge de 15% du salaire de l'employé en chômage partiel. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a aussitôt salué cette décision indispensable, selon lui, pour les secteurs gravement fragilisés et en phase de reprise. Et puis, alors que 28 établissements et 262 classes sont actuellement fermées pour cause de coronavirus, le gouvernement a également annoncé un dispositif de chômage partiel pour les parents qui doivent garder leur enfant à la maison. Une bonne nouvelle pour Laurent Berger, même s'il existe un bémol, prévient le secrétaire général de la CFDT. Comment télétravailler durablement avec des enfants en bas âge chez soi? Enfin, le télétravail, justement, il en sera question demain lors de discussions organisées avec le patronat. Et à ce titre, eh bien, Laurent Berger ne se montre pas tendre avec le MEDEF qui l'accuse de freiner ces discussions.
D'abord parce que du côté des organisations patronales, du MEDEF en particulier, ils ont du mal à aller vers un accord. Ils voudraient avoir un diagnostic. Et moi je crois, et on le voit à travers un certain nombre de constats qu'on est en train de faire, c'est que le télétravail recule, y compris dans son attrait, parce qu'il n'est pas cadré. Parce que c'est pas clair. Vous voyez, on nous dit on pourrait très bien télétravailler avec des enfants à la maison. C'est pas ça le télétravail. Le télétravail, c'est de pouvoir travailler, de faire son travail pleinement et entièrement, mais chez soi ou dans un tiers lieu. Et donc il faut le cadrer. Il faut des accords ou des chartes d'entreprise qui permettent de le cadrer.
Pourquoi le patronat n'en veut pas aujourd'hui, le MEDEF en tout cas?
Mais parce que je crois que, peut-être qu'ils vont vouloir, je l'espère, le document qui va être discuté demain est plutôt un document intéressant. Mais il faut discuter. Est-ce que c'est réversible ou pas? Quelles sont les activités télétravaillables? Il faut discuter de la place de l'encadrement qui peut pas être le même, de la charge de travail. Il faut discuter aussi de l'intégration des contraintes personnelles des salariés. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que ça se fasse au cas par cas dans les entreprises. Et là, ce qu'on demande. Nous, ce que demande la CFDT, c'est qu'on ait un accord, si possible, qui permette de dire voilà le cadre dans lequel vous devez négocier le télétravail dans votre activité. Dès demain, on peut avoir un document.
Voilà, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, invité ce matin de nos confrères de France Info. Quand la crise sanitaire permet des bénéfices exceptionnels pour une poignée d'entreprises, voilà ce que dénonce Oxfam dans un rapport publié ce matin. L'ONG a recensé 32 multinationales qui devraient voir leurs bénéfices progresser de façon spectaculaire cette année, parmi lesquelles on citera notamment Microsoft, Facebook, Google, mais aussi Amazon ou Apple. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Quentin Parinello, porte-parole d'Oxfam France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Annabelle Grelier. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Première question, monsieur Parinello, avant d'essayer de savoir comment favoriser davantage un meilleur partage des richesses, plutôt que d'alimenter toujours les inégalités, peut-être pouvez-vous nous expliquer comment ces grandes entreprises ont-elles pu concrètement réaliser ces bénéfices exceptionnels en pleine crise?
Effectivement, donc ce sont 32 multinationales qui vont réaliser 109 milliards de bénéfices exceptionnels a priori pour l'année 2020. On retrouve essentiellement des entreprises américaines dans ce classement de 32 entreprises, avec, vous le citiez, des entreprises du numérique, donc notamment les GAFAM, des entreprises des secteurs pharmaceutiques, finalement les entreprises qui ont été les moins touchées par la disruption des chaînes de valeur pendant la crise. Et c'est ce qui explique en partie la bonne résistance de ces entreprises pendant la crise et les bénéfices exceptionnels. Ensuite, l'enjeu, c'est de se dire qu'est-ce qui va être fait de ces bénéfices.
Question d'Annabelle Grollier.
Alors, votre rapport, Quentin Parinello, le rapport d'Oxfam, interroge, même dénonce le modèle capitaliste, le modèle qui place l'actionnaire avant le salarié, avant le citoyen. Mais qu'il y ait des gagnants et des perdants face à une crise, c'est pas inévitable.
Oui, alors ce que dénonce ce rapport, c'est que non seulement il y a des entreprises qui font des bénéfices exceptionnels et qui reversent une majorité de leurs bénéfices à leurs actionnaires, mais également qu'il y ait d'autres entreprises, on a des entreprises françaises, des entreprises brésiliennes, sud-africaines, européennes, japonaises, qui elles sont en situation de difficulté économique, mais qui continuent coûte que coûte à verser des dividendes à leurs actionnaires. Et ça a un impact très concret sur les inégalités, puisque ça exacerbe le niveau d'inégalité, avec une flambée de la richesse des 25 premiers milliardaires au niveau mondial.
Et vous souhaiteriez qu'elles fassent quoi, ces entreprises, alors ?
Alors, tout l'enjeu, aujourd'hui, c'est d'adopter un modèle où on arrête de placer l'actionnaire avant la société. C'est d'adopter un modèle qui partage mieux les richesses, avec celles et ceux qui la créent, qui tiennent compte des limites planétaires, parce qu'il n'y a pas de profit à se faire dans une planète qui est morte. Donc, c'est aussi un enjeu pour la durabilité de l'entreprise.
Donc c'est le modèle capitaliste, donc vous êtes sur un modèle anti-capitaliste. Vous demandez donc ce changement de modèle, mais est-ce que l'État, le gouvernement, est à vos côtés ?
Alors tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire comment on réforme ce modèle pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il y a des institutions qui commencent à se positionner là-dessus, qui commencent à se positionner sur les mêmes thématiques qu'Oxfam. Je pense notamment à la Commission européenne qui, le mois dernier, a publié un rapport qui dénonçait la part de plus en plus grande qu'allouaient les entreprises à la rémunération de leurs actionnaires. Et que cette politique-là, elle avait un impact sur les investissements des entreprises. Les entreprises investissent moins, et du coup, c'est une vision court-termiste qui met en danger la durabilité de ces entreprises. Donc, on le montre dans le rapport, il y a certaines entreprises qui, pendant la crise, versent plus de dividendes qu'elles ne font de bénéfices. Je pense notamment à Toyota, qui a versé 200% de son bénéfice pendant la crise, à BASF, le géant allemand de la chimie, qui a versé 400% de son bénéfice, mais aussi des structures, on le montre dans le rapport, des structures par exemple hospitalières privées en Afrique du Sud, qui, les 3 ou 4 années avant la crise, ont versé bien plus qu'elles ne faisaient de bénéfices à leurs actionnaires, et qui pendant la crise se sont retrouvées en manque de moyens pour financer des moyens de protection pour leur personnel hospitalier.
Mais alors pourquoi le font-elles, selon vous ?
Pourquoi le font-elles ? Il y a un modèle économique qui place l'actionnaire avant les intérêts de la société. C'est ce qu'on a documenté dans un rapport très récemment qui montrait que il y a une place de plus en plus importante des actionnaires au sein des conseils d'administration qui prennent les décisions stratégiques des entreprises. Il y a des PDG qui ont une part de leur rémunération de plus en plus grande qui est indexée sur des performances boursières. Donc ils ont intérêt finalement à satisfaire des critères boursiers, à satisfaire les performances boursières. Et enfin et surtout, on a un fonctionnement de la bourse qui est tel aujourd'hui que c'est très facile pour un actionnaire, s'il n'est pas content de la rémunération proposée par l'entreprise, de quitter l'entreprise. Alors s'il y en a un qui quitte l'entreprise, c'est pas un problème. S'il y a une majorité qui quitte l'entreprise, ça fait chuter les cours. Et ce modèle-là, c'est possible de le réformer, mais c'est possible si on fait appel à l'État pour réformer ce modèle, pour encadrer la part des bénéfices versés aux actionnaires, pour mettre fin à une compétition déloyale en la matière et pour encadrer les écarts de salaire, favoriser des salaires décents et favoriser des investissements, notamment dans la transition écologique.
Et il n'existe pas aujourd'hui ces critères, c'est la responsabilité sociale par exemple des entreprises.
Alors aujourd'hui, c'est à la disposition des entreprises de choisir comment on rémunère l'actionnaire, combien on met dans l'investissement, combien on met dans les salaires. Tout l'enjeu aujourd'hui, et notamment dans le cadre du plan de relance qui arrive, c'est de mettre des conditions aux aides publiques qui sont proposées pour pouvoir orienter l'économie, pour pouvoir transformer cette économie vers un modèle plus juste, plus durable et plus résilient.
Donc c'est votre message.
C'est absolument votre message. Aujourd'hui et notamment, pour prendre un exemple très concret, dans le cadre du plan de relance, l'État propose une baisse de 20 milliards des impôts de production. Cette baisse, elle va principalement profiter au secteur polluant, donc au secteur des hydrocarbures, au secteur de la finance, qui ne sont pas des secteurs qui ont particulièrement souffert pendant la crise. Et il y a 25% de cette baisse qui va être captée, notamment par les grandes entreprises. Donc aujourd'hui, il faut conditionner ces aides pour transformer en profondeur le modèle économique des grandes entreprises.
On l'a bien compris. Merci Quentin Parinello, porte-parole d'Oxfam France, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Annabelle Grolier. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Ciel encore parfois voilé de la région parisienne aux Ardennes et en Lorraine. Des orages attendus sur le relief alpin, la Côte d'Azur et la Corse. Partout ailleurs, du soleil. Quant aux températures, elles afficheront entre 21 et 31 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.